Et on va lire les versets 11 à 16. C'est la section qu'on va considérer verset par verset. Évidemment, avec le thème du mois, le verset 16 a un intérêt spécial, mais on va considérer l'ensemble de cette dernière exhortation de Paul à Timothée dans ce premier épître qui porte son nom. Timothée, hein, le fils protégé de Paul, le fils dans la foi, on sait. Et donc, on peut lire à partir du verset 11. Tout le monde est là, hein, Timothée 6, 11. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible et que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » On va prier. Ah Seigneur, nos cœurs se réjouissent à voir ta grandeur dans ce passage, spécialement à la fin quand on voit comment tu es ce Dieu immortel qui habite une lumière inaccessible. Et Seigneur, merci que tu es incomparable. Tu es merveilleux, tu es glorieux et on veut te louer ce matin pour le privilège de pouvoir te connaître par ton Fils Jésus-Christ. Merci de l'avoir envoyé, le seul espoir de ce monde qui est tellement désespéré en ce moment, Seigneur. Ranime notre espérance, notre foi en toi avec ta parole ce matin. On veut se nourrir des paroles de vérité. On vient, Seigneur, boire aux sources d'eau vive. Merci Seigneur pour chacun rassemblé ici ce matin. On prie que tu nous rencontres d'une manière bien spéciale, qui va laisser des traces éternelles dans chacune de nos vies. Seigneur, on n'est pas ici pour nous-mêmes, on n'est pas ici pour ici-bas, mais pour l'éternité, pour que Seigneur, notre passage sur terre ait des répercussions éternelles. Et Seigneur, on s'arrête avec ta parole pour fixer les yeux sur toi, le Dieu immortel, qui de toute éternité règne. Et Seigneur, merci que tu nous donnes ce privilège. Saint-Esprit du Dieu vivant, enseigne-nous, transforme-nous, remplis-nous, au nom de Jésus. Amen. Alors, on vient lire tous les versets, mais spécialement le verset 16, comme je le disais, a un intérêt spécial parce que ça parle ici de Dieu qui seul possède l'immortalité. Évidemment, quand ça dit que Dieu seul possède l'immortalité, ça ne veut pas dire qu'il est le seul qui a la vie éternelle ou une âme éternelle. Parce que si vous êtes ici et vous avez Jésus-Christ comme votre sauveur, vous avez la vie éternelle et ça, c'est immortel. Et même les non-sauvés ont une âme immortelle. Et c'est ce qui est terrifiant, c'est que s'ils ne mettent pas leur foi en Christ, si vous êtes ici, vous n'avez pas encore placé votre foi en Jésus-Christ, vous allez passer l'éternité. Vous avez une âme immortelle, mais qui ne va pas passer l'éternité avec Dieu, mais en enfer, loin de Dieu. Et c'est pour ça qu'on prêche Christ. C'est le seul qui fait la différence entre le ciel et l'enfer. Ce n'est pas les bonnes œuvres, ce n'est pas les bonnes intentions. C'est le sang versé de Christ, l'agneau de Dieu. Et si vous ne l'avez pas encore reçu, ce paiement pour vos péchés, qu'aujourd'hui soit ce jour merveilleux où est-ce que vous l'acceptez. Mais ici, la différence quand ça dit il est le seul qui possède l'immortalité, c'est-à-dire que nous, on l'a par un don de Dieu. Dieu nous a donné la vie. Et à cause de ça, mais Dieu en lui-même a cette immortalité. Il a toujours été immortel. Lui, il ne l'a pas reçu de personne. C'est ce qu'il est. C'est dans sa nature même. Il est immortel, éternel. C'est dans ce sens-là que ça dit à Dieu le seul immortel. Et ici, on est dans l'exhortation finale que Paul donne à Timothée. Et c'est vraiment à la lumière de ce Dieu immortel. C'est pour ça que le titre de mon message aujourd'hui, puis on l'a selon les versets 15 et 16, Jésus-Christ, notre roi immortel. Ça aurait été plus long de dire Jésus-Christ, notre roi des rois, seigneur des seigneurs immortels. Ça aurait été un petit peu un long titre, là. J'ai juste mis Jésus-Christ, notre roi immortel. Mais c'est vraiment à la lumière de ça que Paul l'exhorte. Hé, Timothée, fuis certaines choses, recherche en d'autres. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est l'éternité. Puis on vit à la lumière, ici sur terre, à la lumière de l'éternité, et pour notre roi immortel. C'est ça le sens de l'exhortation de Paul à son fils dans la foi. Et c'est spécialement important et significatif par rapport au fait que Paul, dans les versets qu'on a lus, au verset 12, il parle de combat. Et le mot pour combat, c'est le mot duquel nous avons, en français, le mot agonie. Agonie, c'est combattre jusqu'à bout de force, jusqu'à bout de souffle, tout donner. Okay, il dit « combat le bon combat de la foi, agonise l'agonie de la foi, va jusqu'au bout dans le combat de la foi. » Et ce mot-là, en plus, est dans un temps de vie qui veut dire que c'est quelque chose qui est constant, c'est un présent qui est continuel, qui est toujours « arrête pas de le combattre, toujours reste dans ce combat de la foi. » C'est pour ça que tu es sur terre, Timothée, c'est pour ça que Dieu t'a sauvé, pour que tu combattes le bon combat de la foi. Donc, c'est la lutte constante, non seulement de Timothée, mais de tous les enfants de Dieu. On est appelé à livrer ce combat. D'abord, je pense, comme on le voit dans le verset 11, pour fuir certaines choses et en rechercher d'autres. Hein, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Puis, si vous voulez savoir c'est quoi ces choses, c'est toutes les affaires qu'il y avait avant, l'amour de l'argent et tout ce qui vient avec. Mais aussi, recherche des choses, la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. C'est un combat, ça, mes amis. Et on fuit des choses, mais c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas juste de pas faire certaines choses. La vie chrétienne, c'est de rechercher Dieu, de rechercher les vertus qui sont là. Et c'est comme ça que vraiment, on est appelé à combattre jusqu'à l'agonie. Mais il y a un autre aspect aussi. Non seulement le bon combat, c'est fuir certaines choses puis en rechercher d'autres, mais aussi c'est de garder verset 14, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur. Et donc c'est ça le bon combat. Et en passant, cette exhortation-là que Paul donne de combattre le bon combat comme ça, c'était sur la base, il dit, Timothée, t'as fait une profession publique, comme Christ en a fait une devant Ponce Pilate. Certains disent, ah, c'est à ton baptême, d'autres qui disent, ah, c'est à ta mise à part, peu importe c'est à laquelle. L'idée, c'est que tu t'es engagé solennellement à suivre Christ, ok, c'est ce qu'on voit au verset 13, de la même manière que Christ a confessé devant Ponce Pilate, et toi, je t'amène à faire la même chose. Et c'est tout ça ici, l'idée du bon combat. Pour l'Évangile éternel. Et je pense qu'on doit tenir bon dans ce combat. Ne pas céder à la pression. Il y a une pression. À l'époque de Timothée, il y avait une pression. Et il y avait une pression du monde. Et il y avait une pression aussi du monde chrétien. Déjà, au tout début, dans le Nouveau Testament, et puis Jean en parle, des gens qui sont sortis du milieu, déjà le monde chrétien avait des tendances à l'apostasie, des tendances à s'égarer du chemin étroit. Et c'est pareil encore. Le monde exerce de la pression. Le monde chrétien voudrait qu'on se conforme au siècle présent plutôt que de rester fidèle au prince de la vie, au roi des rois, le seigneur des seigneurs, à Christ, notre roi immortel, qui est le roi qui règne sur son royaume. Et on est appelé à régner avec lui. Et vraiment, ce que j'aimerais qu'on voit dans le message ce matin, avec le texte qu'on va considérer maintenant, qu'on a sous les yeux, qu'on a lu, trois réalités concernant Jésus-Christ, notre roi immortel. OK? D'abord, j'ai commencé à parler un peu brièvement du combat, mais la première réalité concernant Jésus-Christ, notre roi immortel, c'est qu'on est appelé à combattre pour Jésus-Christ, notre roi immortel. C'est pas parce qu'il a besoin de nous, mais c'est parce qu'il nous donne le privilège de rentrer dans son œuvre. Mais c'est un combat. C'est pas une colonie de vacances. C'est pas de la plaisance. c'est un combat. Et je vous dis, le mot est fort. Le mot, c'est un mot fort, qu'il y a plusieurs mots pour combat. Mais ici, c'est le mot qui réfère à se donner complètement jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien à donner. Le combat pour Jésus-Christ, notre Seigneur. Relisons les versets 11 et 12. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Je pense qu'on a un grand besoin, en tant que chrétien en ce moment, de s'arrêter pour réfléchir à notre plus grand besoin. C'est quoi notre plus grand besoin en ce moment? Vous avez-vous déjà posé cette question-là? C'est quoi notre plus grand besoin en tant que chrétien, en tant qu'Église? Qu'est-ce qu'on a? De quoi avons-nous le plus besoin en ce moment? J'aimerais vous amener la réponse, puis je pense que vous allez être d'accord avec moi. Spécialement l'Église occidentale, l'Église qui a été sortie de son confort. Parce que sur Terre, il y a des Églises qui, déjà ce que nous on vit, vivaient déjà pire même avant ce qu'on vit là. Okay? On prie pour nos frères au Venezuela, Corée du Nord, il y a dans les pays musulmans, d'autres pays où il y a le communisme. Pour eux autres, c'était la réalité quotidienne, puis c'était même pire que ce que même nous on vit là. Okay? En Chine, des endroits comme ça. Mais pour nous, notre plus grand besoin en ce moment, la chose pour laquelle on doit combattre, contre laquelle on doit se battre, c'est le fait qu'on est irrésolu. Jacques nous parle de ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on ne doit pas être comme amené là, d'un côté et l'autre comme un bateau sur la mer, puis qu'on n'a pas une foi ferme, mais que... Puis il dit... Qu'un homme, que quelqu'un qui est comme ça ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. J'aimerais vous soumettre ce matin que c'est pour ça, d'abord et avant tout, qu'on doit se battre en ce moment. Et je vous explique pourquoi. Je n'ai parlé le mercredi soir, j'ai glissé mot. Mais sois honnête, on a de la misère à laisser les biens et le confort de ce monde, n'est-ce pas? C'est agréable d'avoir la sécurité, d'avoir et c'est quelque chose, il y a quelque chose de typiquement humain là-dedans. Dieu nous a créés pour ça. Dieu est un Dieu bon qui nous donne toutes choses bonnes en son temps. Mais Dieu, dans sa souveraineté, puis dans sa bonté, il n'arrête pas d'être bon quand il nous enlève ça. Il peut décider de nous l'enlever pour qu'on s'attache à lui plus qu'à ces choses-là. Et le combat, l'idée, c'est est-ce que je suis prêt à tout perdre? À tout subir à cause de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et pour reprendre le mot irrésolu, des fois est traduit par partagé dans certaines versions, je pense qu'on est partagé entre ces deux idées. Parce que l'idée, c'est deux pensées. On a deux pensées qui se tirent d'un bord puis de l'autre. Ma vie ou celle de Christ. C'est vraiment là que tout. Si on ramène au plus simple, à la base la plus fondamentale, c'est ça. Ma vie ou celle de Christ? C'est ça la question qu'on doit se poser ce matin. Ma vie ou celle de Christ? Et c'est ça, je crois, que le Seigneur fait ressortir en ce moment et qui dévoile, qui révèle à travers ce qu'on est en train de vivre. Et vous savez, hein, la chrétienté biblique, la chrétienté historique, et beaucoup de la chrétienté actuelle sur la terre vit dans des conditions difficiles à cause de Christ et est dépourvue de beaucoup de choses. Vous lirez Hébreux, il y a tellement de places, ça dit, vous avez été dépouillés de vos biens. Oui, ça dit dans Hébreux 11, hein, que les gens, à cause de leur foi, étaient vus comme des balayures du monde, ils étaient mis de côté. Et Christ nous ramène à ça. C'est lui qui nous ramène à ça. Et le combat... c'est de ne pas refuser ce que lui veut faire pour pouvoir s'attacher aux choses d'ici-bas. Je crois qu'il y a vraiment pour nous un combat féroce qui se joue là. On peut vous dire que ce n'est pas d'hier, Martin Luther, dans un cantique qu'on chante. Il dit qu'ils prennent tout, chrétiens, notre vie et nos biens. Laissons-les faire, ils n'y gagneront guère. Le royaume nous appartient. Ce n'est pas d'hier que cette idée-là circule. Ça, c'est un rempart que notre... Je crois je pense que c'est pas le seul cantique que Luther a écrit, mais je pense que c'est le plus connu. Il est dans plusieurs langues. Je sais pas, est-tu en espagnol?
Le
Ta-na-ni-na-na-na, qu'ils prennent tout chrétien. Il doit être en espagnol. Sûrement. Dans les églises réformées luthériennes espagnoles, j'imagine. Maintenant, je vais juste amener quelque chose ici de, pour amener un peu plus d'eau au moulin par rapport à ce que je suis en train de vous parler sur le combat pour notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas significatif qu'en ce moment, énormément de menaces, parce que là, on entend souvent, les gens ont plus tant peur du virus qu'ils ont plus peur du gouvernement, puis c'est vrai, mais beaucoup de menaces, c'est beaucoup par rapport à l'argent. On vous donnait des grosses amendes, OK? Peut-être parce que c'est une corde sensible pour nous, Québécois, occidentaux, habitués au confort. Quand on menace de t'enlever ça, là, on perd. C'est un peu comme si on se faisait voler notre plus grand trésor. Et oui, OK, humainement, c'est normal, mais vous irez voir Matthieu 6, 24, là. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et maman. Et Dieu nous met, je crois vraiment, on est face à ce combat-là. Est-ce qu'on est résolu pour Dieu ou « Ah, maman m'amène des affaires que j'aime, m'amène des avantages. » Jésus ne marchait pas ses mots là-dessus. Il n'y avait pas de zone grise, c'était un ou l'autre. Et Dieu nous met face à ça. Il y a vraiment un combat qui se joue là pour nous, chrétiens, en ce moment. Et je pense que de plus en plus, mes amis, on est appelé à payer le prix, mais il faut qu'on s'attende à ce qu'il y a encore plus. Pour une conscience, une bonne conscience devant Dieu, est-ce que je vais être prêt à faire ces sacrifices-là? Je parlais la semaine passée, même des fois, même certains pour la job qu'on a. Je vous dis, c'est sérieux, mais c'est Dieu qui nous met face à ça. Et j'aimerais dire ce matin que si nous attristons pas Dieu avec notre amour de l'argent, mais qu'on le recherche vraiment, Dieu va nous donner, écoutez bien, si on ne l'attriste pas, puis qu'on le met en premier, puis que on le cherche, Dieu va nous donner le courage, la sagesse. Il va nous donner, il va nous diriger, il va nous donner l'assurance pour vaincre dans ce combat. On n'est pas dans ce combat-là comme des perdants qui, ah, ben là, tu sais. Non, Dieu, il rémunère ceux qu'il cherche, il honore ceux qui lui font confiance. Et mes amis, tout ce qu'on vit en ce moment, il faut voir, en tant que chrétien, tout ce qu'on vit en ce moment, c'est pour Jésus-Christ. Je vous donne un exemple. On se rassemble ici ce matin. Puis on se rassemble avec la liberté du Seigneur, puis de la façon qu'on le fait dans la joie du Seigneur. C'est pas pour nous autres, c'est pas parce qu'on veut nos droits, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce qu'on veut l'honorer lui, puis on veut le louer lui. Ça, c'est juste un exemple. C'est vrai pour le reste de la semaine, c'est vrai pour toutes nos vies. Il faut que Jésus-Christ redevienne le centre de nos vies, de nos cœurs, de nos familles, puis de nos églises. Si on veut passer cette crise de façon chrétienne, de façon triomphante, c'est-à-dire en combattant à la lumière de notre roi immortel, il faut qu'on le garde à l'avant-plan. Donc là-dessus, je veux juste lancer un défi ce matin, un défi de la foi. Vous tentez de recevoir un défi ce matin? Le défi de la foi. Écoutez, je ne vais pas vous dire d'essayer plus fort puis de retrousser vos manches. Voici c'est quoi le défi de la foi ce matin. Efforçons-nous, puis en plus, le Seigneur déjà est en train de répondre parce qu'il y en a qui priaient, je vais vous partager quelque chose tantôt déjà. Vous allez avoir une façon de l'exercer, là, mais voici le défi de la foi ce matin. Efforçons-nous d'écouter, d'entendre. Rappelez-vous, la semaine passée, on parlait d'entendre, d'écouter la voix de Dieu. Efforçons-nous d'écouter sa voix, puis de lui obéir. OK, juste ça. Seigneur, je veux entendre ta voix, puis quand je l'entends, donne-moi la grâce que je t'obéisse, coûte que coûte. Peu importe ce que les hommes disent, que moi je pense, je vais t'obéir. Ça, c'est le défi de la foi. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas nécessairement nous dire des choses qu'on voudrait faire, qu'on aurait pensé faire, puis... Mais est-ce qu'on est prêt à faire ça? Parce que regardez, là, si on est irrésolu, là, c'est parce qu'on hésite entre deux voies. La voie de Dieu qui est claire, qui nous amène sur le chemin étroit, versus deux voies. Notre voie, la voie du monde, OK, qui veut nous tirer dans l'autre direction. Puis, mais si, par la foi, on dit « Dieu, je veux juste écouter ta voix, je veux juste écouter ta parole, puis je vais être indéflectible, J'ai besoin de ta grâce, par exemple. Parce que c'est pas dans ma nature. J'ai tendance tout le temps à vouloir aller du côté que je veux. Mais Dieu, par la foi, je veux te faire confiance. Si on s'unit à faire ça, on va vaincre dans le bon combat de la foi. C'est ça le bon combat de la foi. C'est par la foi, on ne s'appuie pas sur ce que nous on veut, ce que nous on pense, on s'appuie sur ce que Dieu dit. Puis on fait juste le faire, puis on y fait confiance pour le reste. Déjà, on fait ça dans une certaine mesure. Continuons de le faire, grandissons dans ces voies-là. Dieu nous met à l'épreuve, comme il dit dans Jacques, l'épreuve de notre foi. J'ai parlé de ça un peu mercredi, mais les derniers mercredis, on était un peu dans Jacques ensemble. J'encourage à être là le mercredi. Hein? On a un bon temps ensemble. On a une petite étude de la parole, mais on prie ensemble. On a besoin de ça. Ça fait du bien en plein milieu de semaine. Et là, on considérait dans Jacques 1, tu sais, quand ça dit, « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Et soyons honnêtes, quand on a des épreuves, on ne dit pas, « Ah, oh, Seigneur, merci, je suis assez content. Merci d'envoyer ça, je suis tellement heureux. » Non. Puis en plus, après ça, comme il en manque en plus, il dit, « Pour que l'épreuve de notre foi, que ça produise de la patience, puis que là, qu'on soit là, qu'on faillisse en rien, qu'on soit accompli sans faillir en rien. » T'es là, wow! Non seulement il manque la joie, mais je faillis en beaucoup de choses, puis je me sens pas très accompli. Savez-vous pourquoi le Saint-Esprit a mis ça de même? Dieu, le Saint-Esprit, là, il a non seulement inspiré la Bible, mais il l'a inspiré dans le bon ordre. Il met l'épreuve de la foi, il met tout ça. Puis là, on arrive au verset 4, puis on dit, qui est suffisant pour ces choses? Je veux dire, je manque le bateau, là. Mais c'est pour ça qu'au verset 5, ça dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ah! » Ça se peut que quand l'épreuve de la foi arrive, je manque de sagesse. Je ne sais pas comment voir ça comme un sujet complet de joie. Je ne sais pas ce que ça prend pour être accompli puis ne pas faillir en rien. Mais c'est pour ça que ça dit, si tu es dans cette situation-là, va à Dieu, demande-lui la sagesse, puis il va te le donner sans te faire de reproches. Moi, j'aime tellement ça quand ça dit, non seulement ça dit que Dieu va nous donner, mais il ne va pas nous faire des reproches. Savez-vous, je suis content que Dieu nous dise ça. Parce que des fois, je me sens un peu gêné d'aller à Dieu avec des affaires que, tu sais, humainement, là, ben, Dieu va dire, ben voyons, t'es bien coco de me demander ça, là. T'es bien charnel d'encore lutter avec ces affaires-là. Mais Dieu comprend, il ne va pas nous faire des reproches. Il sait qu'on est que cher, il sait qu'on est faible. Fait qu'on peut aller avec lui, à lui. Puis il va nous donner la sagesse dont on a besoin. Puis c'est comme ça qu'on triomphe dans le bon combat de la foi. Donc, est-ce qu'on est prêt à ce genre de chrétienté? Puis après, en passant, c'est la vraie chrétienté. Est-ce qu'on est prêt à ce genre de dépendance? Ne sommes-nous pas devenus étrangers un peu? Est-ce que c'est pas un peu nouveau pour nous de vivre totalement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Puis, d'arrêter de négocier avec Dieu, puis Dieu se dire, « Dieu, tu le dis, ça me fait peur, j'ai pas le goût de le faire, mais puisque tu le dis, je vais le faire. » Ça, c'est le bon combat de la foi. Puis j'aimerais juste vous dire qu'il se combat pas un beau dimanche matin sur un banc d'église. Ça fait partie du combat, là. OK, on prépare les troupes, puis Dieu nous arme de sa parole. Mais il y a des choix difficiles que ça va impliquer. Puis faire confiance à Dieu que Dieu, il rémunère ceux qu'il cherche. Et en passant, si on a si peur, si on s'est inquiétant, savez-vous c'est pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas notre Dieu. Si vraiment on était imbibé de comment notre Dieu est grand et souverain et tout puissant, on s'inquiéterait de rien. Quand on s'inquiète et qu'on a peur, on est en train de dire, mon Dieu n'est pas plus gros que ce qui m'arrive. Mon Dieu n'est pas capable de surmonter ces choses. C'est ça le bon combat de la foi, de voir Dieu tel qu'il est, puis juste d'y faire confiance. Certains que Meshach et Abednego, il y avait un grand Dieu qui était capable de sortir d'une fournaise ardente. En passant, on a le même. Il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament, puis un Dieu du Nouveau, un Dieu des miracles, puis un Dieu de la vie quotidienne. Non, c'est un seul Dieu qui est le même. Ça amène au deuxième point ce matin, la deuxième réalité qu'on vit à la lumière de Christ, notre roi immortel. Non seulement le combat pour Christ, notre roi immortel, mais de façon positive, maintenant, la vie pour Christ, notre roi immortel. Regardez au verset 13. « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fait une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. » Deux expressions dans les versets 13 et 14. Ça nous dit que Dieu donne la vie puis il dit « Tu dois vivre d'une certaine manière. » En d'autres mots, la fameuse question que ces versets soulèvent, c'est « Pour qui ou pourquoi je vis? » Hein, tantôt, on dit, première question, « Ma vie ou celle de Christ? » C'est le mettre autrement. Pourquoi je vis ici, ici-bas? Pour qui je vis ici-bas? Vis-tu pour moi-même? Vis-tu pour plaire aux autres? Ou comme Paul le dit, « Christ est ma vie. » Je vais vous illustrer ça avec la nation d'Israël. Vous savez, l'Ancien Testament, j'ai mis un pasteur juif, j'écoutais, ceux des fois qui écoutent, là, il y a des, moi j'aime ça, ils ne sont pas tout le temps bons, des fois il y en a des meilleurs que d'autres, mais les RBC Ministries, des fois ils font des affaires sur la terre promise, là, puis j'ai appris beaucoup de choses là-dessus, des fois tu apprends des affaires sur des lieux sur Éphèse, comment c'était fait, puis tout ça, puis les lettres aux 16 églises, en tout cas souvent c'est intuitif, on a ça dans la bibliothèque, c'est sûr que Martin n'est pas parti avec, là. Il y en a là, c'est pas mal instructif. Dans une de ces vidéos-là, c'était trois pasteurs juifs messianiques, c'est-à-dire des gens qui sont nés de la nation d'Israël, mais qui ont reçu leur Messie comme sauveur, OK? C'est des frères et sœurs dans le Seigneur. Et l'un d'eux, puis là, il dit, tu sais, les Juifs, là, c'est le tempérament du Moyen-Orient, tu sais, c'est des gens là sont passionnés puis tout ça. Puis là, il dit comme ça, le passionné, il dit toute la Bible, c'est l'Ancien Testament. Lévitique, c'est non, excusez, toute la Bible, même l'Ancien Testament, c'est inspiré de Dieu. Lévitique, c'est la parole de Dieu. Deutéronome, un roi, c'est la parole de Dieu. Fait que là, puis tu sais, parce qu'en voulant dire, regarde, il n'y a pas juste le Nouveau Testament, tu sais, c'est toute la parole de Dieu. Puis il dit ce pasteur-là dit: l'Ancien Testament, c'est comme un livre d'images. Comme un livre à colorier, d'une façon. C'est vrai, hein? Parce qu'il y a beaucoup d'images, puis Dieu se révèle beaucoup à travers les histoires, à travers, OK? Puis on voit ça d'une façon spéciale avec la relation d'Israël avec son Dieu. Et une chose qui ressort beaucoup dans l'histoire de la nation d'Israël, c'est justement la relation d'Israël en tant que Dieu étant son roi. On considère ce matin Jésus-Christ notre roi immortel. Mais on sait, hein, malheureusement, Israël a rejeté son roi légitime, l'Éternel, quand dans 1 Samuel chapitre 8, ils ont demandé « Donne-nous un roi comme les nations. » Puis là, Samuel n'était pas très content de ça, puis Dieu il dit « Prends pas ça personnel, c'est moi qui rejette comme le roi. » C'est lui le roi légitime. Mais combien pire est devenue la situation quand, beaucoup de quelques centaines d'années après, en fait... ça va même autour de plus de 1000 ans. Lorsque dans les évangiles, dans Jean au chapitre 19, alors que Christ est sur terre, qu'ils sont face à leur roi incarné en personne, le roi d'Israël, Jésus, le roi des Juifs, comme la Bible dit, et que là, ils disent, devant justement Ponce Pilate, eux autres, leur confession n'était pas très bonne, ils se sont écrits: « Nous n'avons de roi que César. » Quelle tragédie, mes amis. Eux qui avaient le roi des rois qui était là en personne devant eux, ils le rejetaient. Puis ce qui est arrivé avec cette génération-là d'Israël, c'est perpétré par la suite. Et dans le fond, ça se résume par ce que Jésus a dit dans l'une de ses paraboles, dans Luc 19. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et ça, c'est le prototype de ce qui arrive avec l'ensemble des nations. Parce que c'est pas juste Israël qui a fait ça. Vous lirez le psaume 2, vous lirez Romains 1. C'est un rejet de Christ, le roi légitime, de sa vie. Et Kevin m'a partagé quelque chose dernièrement. Oh, Kevin l'essence mal, il est sur du spot. Non, mais il m'a partagé une vidéo de quelqu'un, c'est ça... même elle me disait, on sait pas trop la foi de ce gars-là, tout ça, mais il a amené un point intéressant. Il faisait un peu une analyse de la situation mondiale, puis ce qui arrive, mais lui, il est irlandais. Et il a fait une observation bien intéressante. Je sais pas si vous savez, mais l'Irlande, c'est pas mal récemment, c'est pas en 2019, a accepté l'avortement. Okay, c'est une des dernières nations, puis c'est eux, pas vous savez, mais en Irlande, pour qu'ils acceptent l'avortement, c'était quelque chose parce qu'ils ont tout le temps été très fermes là-dessus, puis ils ne voulaient pas l'accepter, puis tout ça, puis bon. Et l'auteur, qui est un Irlandais, il est roux, un bon vrai Irlandais roux, il faisait directement le parallèle avec la réaction crédule, asservissante et même débilitante de l'Irlande face à tout ce qui est arrivé. Il dit, on a tout avalé ça. Et on dit line, hook and sinker. Là, ils ont tout avalé, tout ce que les médias ont dit sur la pandémie et tout ça. Puis là, il dit pourquoi? Parce que l'Irlande a rejeté son roi, le prince de la vie, et c'est voué à d'autres rois. Maintenant, ceux qui écoutent, c'est d'autres voix. C'est plus la voix de Dieu. Bon, on s'entend que clairement, t'es pas tout chrétien, là, mais l'idée, beaucoup en arrière, en fait, la majorité, beaucoup sont catholiques. Bon, on sait que c'est divisé, là. Dans le Nord, c'est les protestants, mais il y avait quelque chose de fondement biblique de ça. Et finalement, savez-vous, là, c'est moi qui rajoute ça sur ce que lui dit. En se détournant de leur roi et en écoutant d'autres rois, voici c'est quoi le verdict biblique de l'Irlande, puis ça, mes amis, c'est certainement pas la seule nation. C'est pareil pour le Canada, c'est pareil. En fait, c'est mondial. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est ça qui arrive en ce moment. On a rejeté le prince de la vie, celui qui est le seul qui dit toujours vrai. C'est pour ça que ça va mal en ce moment. C'est pour ça qu'on est à la solde des tyrans, comme Israël a été à la solde des tyrans, parce qu'on a rejeté le bon berger, le vrai bon roi. Spirituellement, c'est ça qui arrive en ce moment. Et là, nous, on est chrétiens, on connaît le vrai roi. C'est pour ça que pour nous, là, on est complètement dans un autre combat, dans une autre affaire. Si on connaît le vrai roi, c'est à lui qu'on doit notre allégeance, c'est à lui qu'on doit faire confiance dans ces temps qu'on traverse. Parce que mes amis, c'est pas arrivé dans l'histoire de l'humanité que l'humanité entière soit sous une tyrannie pareille. Ça a été arrivé souvent, il y a eu l'Empire romain, il y a eu des empires, il y a eu Hitler, il y a eu les guerres mondiales. Mais là où est-ce que la planète entière, de façon globale demain, soit une tyrannie pareille, c'est sans précédent. Et je l'attribue directement, comme planète en ce moment, on a rejeté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a certains pays qui vont mieux que d'autres, mais rejeter Dieu, le roi immortel. Et c'est le résultat qui arrive à cause de ça. L'humanité a choisi la mort et non pas la vie. Voilà pourquoi on est dans ce marasme. Juste un petit commentaire biblique là-dessus sur ce que Paul dit. Romains 2, 8. Juste, je vous le lis rapidement. En fait, je vous lis 7 et 8, c'est tout qu'un contraste. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. C'est le verdict de ce qui nous arrive en ce moment. Et ça, c'est la plus grande malédiction qu'il ne peut pas avoir. L'endurcissement, avoir rejeté Dieu puis persister dans cet endurcissement. C'est pour ça qu'on doit prêcher Christ, celui qui est venu pour restaurer le roi, qui est venu pour rétablir le vrai royaume, pour rétablir la relation qui a été brisée après la chute. C'est le seul espoir de ce monde. Pourquoi? Parce que l'homme a préféré la mort à la vie, les ténèbres à la lumière. La Bible nous dit parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et ont méprisé l'œuvre de Jésus-Christ, le roi éternel qui est venu pour restaurer. Et si ce matin, il y a quelqu'un qui est dans cet état d'avoir rejeté Dieu, j'aimerais vous dire, vous n'avez aucune sécurité dans ce monde. Aucune. Même si votre vie, vous réussissez à la sauver, votre vie terrestre, vous avez une âme éternelle qui a besoin d'être rachetée par le sang de Jésus-Christ. Et savez-vous c'est quoi le message que déjà il y a 2000 ans, Jean-Baptiste, Jésus-Christ et les apôtres prêchaient? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et c'est encore le même message qu'on fait retentir aujourd'hui. Ça m'amène à la troisième et dernière réalité concernant Christ, notre roi immortel. Et on a ça dans les deux derniers versets qui sont tellement extraordinaires dans notre texte. La manifestation de Christ, notre roi éternel. Ça dit « Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Ça nous parle ici du retour de Christ. Et vous savez, on croit à l'imminence du retour de Christ. N'importe quand il peut revenir. Et personne ne sait le jour. Mais il faut être prêt. Et ça nous dit qu'à ce moment-là, Jésus va mettre en évidence ce qui est déjà un fait. Okay, il va mettre en évidence qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Il va mettre en évidence le Dieu unique qu'il est. Puis, même si en ce moment, ce n'est pas évident, nous qui sommes des enfants de Dieu, on doit vivre à la lumière du fait de cette évidence. Écoutez bien. Jésus est le roi immortel, donc ça veut dire que son royaume est immortel. Savez-vous que dans l'histoire, jamais, jamais le royaume de Dieu n'a été vaincu, puis il ne sera jamais non plus. Jamais, ça ne va jamais arriver. C'est un royaume invincible. Pourquoi? Parce qu'il est immortel. Contrairement au royaume humain, les royaumes humains, il y en a eu, hein, des montées, des descentes. Étudiez l'histoire, c'est ça. La montée d'un royaume, la destruction d'un autre par un autre qui montait, puis c'est un peu monotone, là. C'est tout le temps la même histoire qui se répète. Alors, il y a un gros livre, ça, d'épais, ça s'appelle « Guerre et paix », puis ça raconte ça, dans le fond. Si vous lisez des Garfield, quand Garfield lit un gros livre qui est bien long, c'est ce livre-là qu'il lit, OK? Pensez pas plugger Garfield dans le matin, mais pour notre audience plus jeune, c'est du matériel intellectuel raffiné. Donc, le royaume de Dieu ne sera jamais vaincu, puis il ne peut pas l'être non plus, parce que c'est un royaume immortel. Son auteur, son roi, est éternel, immortel, personne ne peut le détruire. Et oui, il y a quelque chose d'ironique là-dedans, par exemple. Parce que les citoyens de son royaume, ça c'est nous. Puis là, je ne vais pas être flatteur, là. Les citoyens de son royaume sont méprisables aux yeux du monde. Parce que c'est des enfants, c'est des pauvres en esprit, c'est des hommes, c'est des persécutés. Regardez les béatitudes, c'est ça, les citoyens du royaume, c'est pas des gens, c'est pas flashy, là. C'est méprisable. Mais comprenez bien, mes amis, ces choses ont une valeur inestimable parce que c'est éternel. Lorsqu'on vient à Dieu comme un enfant dans une simple foi enfantine, lorsqu'on est pauvre en esprit, c'est-à-dire qu'il y a une expression d'humilité, quand on est persécuté pour la justice, ces choses-là bâtissent le royaume de Dieu. C'est comme ça que le royaume de Dieu a été bâti à travers l'histoire. Puis, même si le monde le méprise, savez-vous quoi? C'est comme ça que le royaume invincible de Dieu a avancé, a triomphé, puis n'a jamais été capable d'être arrêté. Avec ce genre de personnes-là. C'est quand même quelque chose, là. Je veux dire, c'est pas ce que le monde... Tu sais, les armées du monde, c'est des grosses armes, puis des ci, puis des ça. Le royaume de Dieu, c'est avec ça. Des choses faibles, méprisables. Pourquoi? Parce que Dieu veut pas que les citoyens du royaume aient toute la gloire. Il veut que lui ait toute la gloire. Puis on dit, wow, comment une armée aussi dépourvue, aussi méprisable peut être invincible? Parce que son roi est invincible. C'est ça le point. C'est pour pointer tout le temps à celui qui est notre chef et maître, Jésus-Christ, le roi immortel. Vous savez, quand on y pense, tous les royaumes, toutes les richesses de ce monde vont périr, puis beaucoup de gens ont péri. Il y a des cités ensevelies. Mais c'est pas comme ça avec le royaume de Dieu, parce que c'est un royaume éternel, un royaume immortel. Puis bien qu'on ait perdu momentanément sa gloire. Vous savez, à la création, Dieu nous avait placés dans ce royaume de lumière. Mais à cause de la chute, bon, vous connaissez l'histoire. Mettons que ce n'est pas aussi beau que quand ça a commencé. Mais bientôt, mes amis, bientôt, on va retrouver ce royaume glorieux, merveilleux, sans tache, avec une paix parfaite, puis nos cœurs soupirent après ça, n'est-ce pas? Ben, si nos cœurs soupirent après ça, vivons à la lumière de ça. Un livre que j'aime beaucoup, puis qu'on a passé au travers en tant qu'Église, les dimanches soirs, le livre d'Ézéchiel, ça nous parle de ça, hein? C'est un peu une image de tout ce qui est arrivé avec l'humanité. Le livre d'Ézéchiel commence où est-ce que la gloire de l'Éternel s'en va de la ville. À cause de quoi? À cause du péché, à cause que le peuple avait rejeté l'Éternel. Mais à la fin, elle revient, la gloire. Et c'est un peu ça qui est arrivé avec l'humanité. La gloire de Dieu, on l'a abandonnée, puis elle est partie à cause du péché. Mais Dieu restant, Dieu est un Dieu qui change le mal en bien. Et c'est là-dessus que je désire qu'on garde nos yeux ce matin. Et venez avec moi dans le chapitre 1. Vous êtes dans 1 Timothée, restez dans le même livre, mais on va lire le verset 17. Et c'est avec ça que je veux conclure ce matin. On a vu une description de notre roi immortel à la fin du chapitre du livre, à la fin du chapitre 6. Mais regardez, au tout début du même livre, Paul réfère ici à Dieu en disant « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur, gloire au siècle des siècles. Amen. » Il y a un cantique qu'on chante là-dessus. On appelle ça juste, on l'appelle doxologie. En français, comment on l'appelle? C'est juste doxologie. Doxologie, ça veut dire rendre gloire à Dieu. Doxa, c'est gloire. C'est un cantique qui donne la gloire à Dieu, qui attribue la gloire à Dieu. Et c'est basé là-dessus. Et remarquez, on a vu hein, dans le chapitre 6, verset 16, que Dieu est le roi immortel. Ici, ça rajoute « invisible ». Et c'est important. Tout ce dont j'ai parlé ce matin, on ne peut rien voir. Si vous ouvrez la télé, là, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Si vous allez vous promener, vous allez voir la gloire de Dieu dans la création, parce que Dieu se révèle même à travers sa création. Mais c'est un royaume invisible. Ce roi est invisible. Bon, il y a une fenêtre dans le temps où est-ce que le roi est venu. Pendant 33 ans, on pouvait le voir de nos yeux. Mais ça n'a pas été longtemps, puis nous, on n'était pas là. C'était pas dans 5 mois. Hein? C'était pas dans 5 mois. Puis c'était pas dans sa gloire, c'était dépouillé. Effectivement. Mais je veux juste amener un point avec ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous regardons, non pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont permanentes. Peut-être qu'il ne se voit pas, mais c'est lui le plus important. Vous savez, tout ce qu'on voit est dirigé, ça vous aurez, on croit ça par la foi aussi, que ce qu'on voit est fait de choses qu'on ne voit pas. Que le monde qu'on voit est dirigé par un monde qu'on ne voit pas. Je crois qu'en ce moment, on est dans une guerre spirituelle sans précédent. Si on pouvait voir le monde angélique en ce moment, là, mes amis, ça brasse partout sur la planète. C'est vraiment, c'est déchaîné. Parce que, pourquoi qu'il y a tout un trou, puis qu'il y a du monde qui est découragé, suicidé, puis que les gouvernements, il y a toutes ces affaires-là qui arrivent? C'est parce que c'est la réalité dans le monde spirituel qu'on voit dans le monde physique. Et c'est pour ça que je veux finir avec ça. Invisible. On ne voit pas ces choses, mais on doit avoir les yeux de la foi sur ces choses. Pourquoi? Parce que on est convaincu, on a les promesses sur promesses. C'est décrit que Dieu est notre roi immortel, invincible, qui il a déjà tout remporté la victoire dans ce combat, dans cette guerre spirituelle. C'est ça qu'on doit garder à l'avant-plan de nos pensées. Je vous donne un exemple. Il y a un piège en ce moment dans lequel on ne doit pas tomber. En tant que chrétien, puis savez-vous quoi, si on veut encourager les autres, il faut qu'on se tienne là-dessus. N'attribuons pas aux hommes, à ce qu'on peut voir, une puissance qui ne leur appartient pas. Vous savez, l'homme n'est pas tout puissant. Les gouvernements ne sont pas tout puissants. OK? Eux-mêmes sont assujettis à ce monde. On les voit, puis on peut vrai. Regardez pas, nourrissez pas votre cœur des nouvelles. Vous allez vous décourager. Vous allez être... Non, mais sérieusement, hein, les vont prier là-dessus. Les personnes âgées du 19 sont déjà sont seules chez eux. Puis là, ils entendent les nouvelles. Là, ça va mal, au secours, ayez pas. Puis le cœur humain n'est pas fait pour soutenir ce genre de traitement pendant. C'est de la torture psychologique. Je veux dire, si vous connaissez quelqu'un comme ça, dites. Mon ami, lis un livre, je vais t'appeler au téléphone, on va jaser ensemble, on va prier. Sérieusement, on n'est pas fait pour se nourrir comme ça. Les pensées. Donc, on ne leur attribue pas une puissance qu'ils n'ont pas. Parce que c'est ce que Satan voudrait nous faire croire. Il voudrait les mettre plus grands que nature. Regardez comment c'est ce que le monde fait. Le monde d'Hollywood, hein? Les choses de plus grand que nature. Mais c'est tout une illusion. C'est tout faux. On le voit avec nos yeux, mais c'est pas plus vrai. N'est-ce pas ironique? Ce qu'on voit de nos yeux, c'est moins vrai que ce qu'on voit pas. Écoutez. Eux ont la puissance de la manipulation par le mensonge. C'est ça. Ils peuvent manipuler en faisant peur, puis par le mensonge. Ah, si... Ça, c'est tellement important, puis il faut que tu sauves ta vie. On en a parlé souvent. L'important, c'est pas de sauver notre vie ici-bas, c'est la vie éternelle. Parce que Jésus l'a dit, que se verra à quelqu'un de gagner le monde s'il perd son âme. Donc, la manipulation par le mensonge. Mais Dieu donne la libération par la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et mes amis, c'est pour ça qu'on est encore sur terre. Parce qu'on connaît la vérité, puis on est appelé à proclamer la vérité, qui est en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on ne devrait pas avoir une attitude fataliste. Puis, le gouvernement encore, il donne des affaires de même. Puis, il faut faire ça. Puis, c'est sûr qu'on n'est pas content, je l'ai dit. Il n'y a pas personne qui aime ça. Mais on devrait regarder, si Dieu le veut, je vais être capable de pouvoir continuer. Puis, de garder Dieu, OK? Je vous termine avec ça. Monsieur Tson, qui était dans des circonstances difficiles où est-ce que le gouvernement prenait toute la place. Le gouvernement communiste, là, ça prend toute la place. On commence à s'en rendre compte, OK? Parce que notre gouvernement est de plus en plus à savoir communiste, là. On ne peut plus parler, on ne peut plus rien dire. Puis... Mais lui, c'était comme ça. Puis là, même, il était face à la police qui l'interrogeait. Puis il dit, comme Dieu, il a ouvert les yeux parce que là, c'était impressionnant, là. T'sais, il était tout seul devant 6 personnes de la police secrète qui sont là pour t'écrapoutir, là. Ben, Dieu ouvre les yeux, puis il s'est rendu compte, ah, c'est juste des marionnettes. C'est Dieu qui les a mis devant moi. Puis là, au lieu d'être terrifié, il a vu l'invisible, ça l'a libéré. C'est ça qu'on a besoin, évidemment. On a besoin de voir celui qui est invisible. On a besoin de nourrir notre cœur, nos yeux, de cette réalité invisible. Qu'au bout du compte, il y a beau arriver toutes sortes de choses, Dieu est au contrôle. Puis oui, on a des ennemis, puis oui, il y a une guerre, puis... Mais on est déjà avec Jésus, le roi immortel. Rien peut nous arriver qu'on a à craindre. Même la mort. Si vous êtes ici, puis vous êtes un enfant de Dieu... On n'a pas à craindre la mort. Monsieur Tson le disait de même. Menacez-moi pas avec la gloire. Tu dis que je vais mourir, je m'en vais dans la gloire de Dieu. Menace-moi pas avec la gloire. On a besoin de penser de même, mes amis. Pas pour rien que ces gens-là, je les admire, puis c'est des modèles pour moi, parce qu'ils pensent de la bonne manière. Ils ont la foi qui triomphe des circonstances. Est-ce que notre Dieu est plus petit que les circonstances, que les situations qu'on vit? Oh non, mes amis. C'est peut-être juste dans nos yeux, comme avec les espions qui ont exploré la terre promise. Ah, nous étions, à nos yeux, comme des sauterelles. Pourtant, Dieu leur a dit, allez, puis je vous donne le pays. Ils étaient des géants. Pas eux autres, mais Dieu est bien plus grand que tous les géants qu'ils ont vus. Mes amis, que Dieu nous ouvre les yeux là-dessus. Seigneur, on te remercie que ton royaume est immortel. Ah, il est invisible et il ne vient pas pour frapper l'œil. Mais c'est le royaume du Dieu Tout-Puissant, de Jésus-Christ, notre roi immortel. Et rien, absolument rien, ne peut le vaincre, l'arrêter, ni même le ralentir, rien. Ah, mais Seigneur, nous sommes faibles dans la foi. On vient s'appuyer sur toi, Seigneur, pour nourrir notre vision spirituelle, s'attacher à toi, Seigneur. Oui, on vient à toi demander de la sagesse. On n'a pas ce que ça prend. On tombe à court dans tellement de façons, Seigneur. Ah, mais merci que tu es Jéhovah Jiré, Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait des grands prodiges et des miracles, Seigneur, pour montrer que tu es l'Éternel, le seul Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre que toi. Seigneur, tu es le même encore, hier, aujourd'hui, éternellement. Et on veut vivre à ta lumière, on veut vivre en regardant aux choses d'en haut, à celles qu'on ne voit pas, mais qui vraiment changent vraiment les choses. Ce n'est pas ce qu'on voit, ce n'est pas ce que Satan voudrait nous mettre devant les yeux qui est à craindre. Mais c'est toi, Seigneur. Alors, on vient à toi. Et Seigneur, on vient à toi par la foi, sachant que tu rémunères, tu récompenses. On ne vient pas à toi en revenant avec rien, Seigneur. On revient avec des chants d'allégresse, avec tout ce dont on a besoin. Seigneur, bénis ce temps de réponse à ta parole. Glorifie ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous lever.